Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne avec de formidables invités qui vont venir nous parler d'un sujet extrêmement important. C'est parti pour l'invité de la semaine. Bonjour à tous les deux. Nous ont rejoints sur ce plateau David Perrotin. Bonjour David.
Bonjour.
Tu es journaliste à Mediapart.
C'est ça.
Et à côté de toi, nous sommes avec Kevin. Salut Kevin.
Bonjour.
Kevin, tu as 36 ans, tu as habité en région parisienne et tu as été victime d'une attaque homophobe. On va en parler puisque c'est le sujet d'un documentaire qui sort la semaine prochaine sur le site de Mediapart et qui s'intéresse au phénomène des guet-apens homophobes. David, tu peux nous parler de ce phénomène un peu ?
Alors en fait, ça concerne les gays. En tout cas, on s'est vraiment attardé sur les personnes homosexuelles. Et en fait, c'est quand elles sont ciblées, soit via une application de rencontre, type Grindr, Hornet, ou sur des lieux de drague. Et qu'elles sont ciblées et qu'elles sont agressées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour être simplement gays. Et donc en fait, c'est des agresseurs qui vont les repérer via les applis, qui vont aller considérer avec ces préjugés homophobes qui veut que on pense que les gays sont vulnérables, qu'ils ont plus d'argent, et donc du coup qu'ils vont les voler. Sauf que ce qu'on constate dans le documentaire, c'est que c'est souvent des scènes d'hyperviolence et qu'elles sont nombreuses.
Alors, on parle de phénomène, j'ai utilisé le mot phénomène. Est-ce que tu peux nous dire combien de personnes, combien de victimes ça concerne ?
Alors, nous, initialement, quand on a préparé le documentaire, on pensait que c'était une trentaine. Comme ça, on s'imaginait, on n'avait pas un chiffre de départ. On a découvert qu'en réalité, sur ces 5 dernières années, il y en avait au moins 300 guet-apens homophobes, ce qui fait un guet-apens par semaine. Et sur la seule année 2022, il y en a un guet-apens sur tous les trois jours. Donc oui, on peut considérer que c'est un phénomène, sachant que c'est vraiment un chiffre sous-estimé parce qu'on explique justement toutes les raisons qui font que les victimes ne portent pas plainte, que la justice ne cherche pas forcément à retrouver les agresseurs ou les victimes et que la police non plus.
C'est donc le sujet d'un documentaire qui sortira la semaine prochaine sur le site de Mediapart. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et qu'on en parle juste après.
Je me suis retrouvé donc encerclé par des individus qui me frappaient le visage à coups de pied et à coups de poing.
Franchement, tu vas voir, franchement, tu vas kiffer avec moi, franchement.
Arrêtez-moi, tu flippes, hein.
Il me filmait pendant que son collègue est en train de me tabasser. Dis que tu es pédé, dès que tu es pédé.
Un sujet particulièrement grave, difficile. Comment est née l'idée chez vous à Mediapart d'en faire un sujet de documentaire ?
Alors en fait, l'idée, elle est de Sarah Brett, une journaliste qui travaillait avant à l'AFP et qui voulait justement s'intéresser, revenir sur le cas de Kevin et avait eu connaissance d'autres guet-apens à Bobigny. Donc c'est parti de ça. Elle est venue me voir en me disant on pourrait s'associer pour regarder si justement c'est quelque chose d'assez important. Et en fait, rapidement, on a découvert que c'était assez massif. Au début, on voulait juste en faire un article, après une petite vidéo de 12 minutes. Et en fait, c'est Mathieu Magnodex et Valentino Berti, deux autres collègues, qui nous ont dit en fait il faut en faire un documentaire et c'est pour ça qu'on a trop de matière, c'est trop important. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce travail.
Kevin, toi, tu témoignes dans ce documentaire du guet-apens dont tu as été victime. C'était en 2019. Ça a dû être un effort considérable de témoigner pour en parler ou pas ?
En fait, non, parce que je me suis dit quitte à me faire poignarder, autant que ça ne sert pas à quelque chose. Donc, en parler, c'était la meilleure des choses à faire, je pense.
D'accord. Vous avez réussi à bien travailler. Ça, c'est quelque chose qui a été rendu possible de libérer la parole des victimes pour des choses aussi horribles, aussi marquantes.
Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il y en a beaucoup qui ont refusé, ouais. Parce que c'est évidemment, c'est une part d'intimité. En plus de l'agression que ces victimes ont vécue, qu'il faut confier une nouvelle fois quand elles l'ont déjà confiée à la police ou à la justice, qu'il y a aussi il y a quelque chose de, c'est une part d'intimité, mais c'est aussi il y a beaucoup de honte de ces victimes parce que on se fait frapper quand on fait une rencontre, quand on est à un lieu de drague, quand on prévoit une rencontre sexuelle ou une histoire d'amour. Pour Kevin, mais quand même pour d'autres, il y en a six victimes dans le documentaire. Je pense qu'il y a des approches différentes. Je pense que avec Kevin, ça a été dès le départ, et je pense qu'il y avait une volonté d'en faire quelque chose en fait de son histoire. Je vais pas parler à ta place, mais ça a été. Alors, on s'est vu à plusieurs reprises. T'as été d'une grande aide parce qu'un documentaire, c'est pas simple. Ouais. Mais voilà, il y a eu plusieurs, selon les cas et selon les histoires, ça a été plus ou moins facile.
Kevin, ça a eu un retentissement énorme sur ta vie, cette attaque dont t'as été victime, puisque tu as quitté ton job, tu as quitté la région parisienne où tu habitais. Comment ça va maintenant ?
J'ai envie de dire qu'on en est toujours au même point, en fait. Ouais. Parce que je pensais pouvoir tourner la page avec cette partie de justice qui allait se finir. Et ça a été reporté d'un an à cause d'une erreur d'envoi de courrier. Donc,
ça a été reporté de... Parle bien dans le micro.
Ça a été reporté de un an.
Un an.
Un an pour une histoire d'oubli d'envoi de courrier, en fait, de la justice.
Du coup, t'en es où, justement, dans ce processus judiciaire ? Ça a pris du temps ? T'as été accueilli pour déposer plainte ? T'as été accompagné par un avocat ? Comment ça s'est fait, ce parcours ?
Alors, toute la partie, en fait, avec la police... Moi, je l'ai eu quand j'étais à l'hôpital, en fait, puisque j'étais hospitalisé pendant 5 jours. Et toute l'enquête s'est faite, en fait, à ce moment-là. Donc, okay. Il venait me voir tous les jours dans ma chambre pour me poser des questions.
D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, dans le processus judiciaire, donc, tu es en attente que ça passe en jugement ?
Voilà. Alors, c'est passé en jugement pour leur peine. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été emprisonnés, ils ont eu leur peine. Mais en revanche, pour tout ce qui est indemnisation... c'est toujours en attente.
D'accord, c'est ça qui est encore en attente. Usul, tu avais une...
Il y a beaucoup d'images et de sources différentes, dont des images très dures. Il y a l'image de ton agression, je crois, avec la caméra de la voiture. Donc, il y a beaucoup de sources différentes. L'important, c'était... Le but du documentaire, c'était de montrer quelque chose qui, sinon, est invisible, c'est ça. Et quitte à... c'est aussi pour ça que les gens ont accepté de témoigner, pour dire, bon, je prends sur moi, je témoigne, mais c'est pour montrer, rendre visible.
Alors, en fait, on s'est beaucoup interrogé pour savoir...
Parce que c'est vrai que j'ai jamais vu dans des JT, dans des trucs comme ça, ce genre de cas, en fait.
Alors, d'abord, il y a eu un travail colossal, notamment de mes collègues, pour récupérer ces vidéos, parce que c'est compliqué, d'agression. On s'est beaucoup interrogé de savoir si on devait les montrer ou pas, parce que c'est violent, parce que c'est aussi une nouvelle violence, peut-être, pour certaines victimes. On a eu le raccord, on en a discuté avant. Mais la volonté, c'était vraiment... En fait, on part de quelque chose qui est totalement invisibilisé. On voit dans l'actualité, on peut avoir des propos homophobes tenus même par des ministres dans des scènes sportives. Au quotidien, on peut avoir des animateurs qui font des blagues, des canulars homophobes. Mais on se dit pas qu'en fait, ça tue encore et qu'il y a encore des coups. Et donc, l'idée de montrer cette violence, il y a 3 scènes de violence assez...
Oui, j'étais surpris.
Très dur. Voilà.
Niveau de violence montré.
Voilà. Alors, c'est une minute sur, bien sûr, une heure, mais elles sont très... Voilà, c'est extrêmement violent. Il y a le son, il y a l'image. Mais on pensait que c'était, en fait, ce que les autorités ne veulent pas toujours voir, ce que les institutions ne veulent pas toujours voir. Il fallait que la société puisse le voir et que derrière les institutions aussi, pour réagir peut-être, pour comprendre qu'en fait, quand on parle de guet-apens ou quand on parle d'un gay qui a été estorqué, volé après un rendez-vous galant, parce que c'est comme ça que c'est traité souvent dans la presse, voilà ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire, des coups extrêmement violents, ça veut dire un coup de couteau, des gens qui ne s'en remettent pas ou qui s'en remettent difficilement des années après. Kevin, tu pourras peut-être le raconter, mais de se dire que 4 ans après, il n'a toujours pas été indemnisé, de dire que sa vie a totalement changé, qu'il a fallu déménager, etc. C'est ça qu'on voulait montrer, donc on le montre à travers les témoignages, mais aussi à travers ces scènes de violence qui sont aussi des preuves dans le cas de Frédéric, où on diffuse une vidéo de surveillance de son agression. Les policiers lui ont dit non, les vidéos, les caméras ne marchent pas, les vidéos sont factices. C'est lui-même, la victime, qui a été rouée de coups, tabassée par 2 hommes aux Tuileries, qui a fait sa propre enquête, qui est allé taper à la porte du musée du Louvre sur lesquelles étaient accrochées les caméras, on voit les images, et qui a demandé lui-même au directeur technique de pouvoir récupérer les vidéos de surveillance, qui les a apportées au commissariat pour qu'on
la victime a fait sa propre enquête parce que la police disait non, il n'y a pas d'image, on ne peut pas les exploiter. Et lui, il est allé lui-même démontrer que c'était possible. C'est incroyable.
C'est d'autant plus incroyable que, parce qu'on lui a dit, en gros, l'enquête, ce qu'on raconte, c'est que les enquêtes sont souvent bâclées parce qu'on traite ça comme des petits vols crapuleux. Et en plus, on a nié totalement le caractère homophobe dans son histoire. On lui disait, voilà, c'est bon, vous avez pas, vous êtes pas amputé. Donc, en grosso modo, les conséquences sont assez minimes. Et ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est de confronter la version policière qui visait à tout minimiser et la violence de la scène. Où là, on ne peut que se dire que tout est très grave et que tout a été bâclé.
Kevin, qu'est-ce que tu attends de ce documentaire ? Quel effet est-ce que tu souhaites que ça ait ? Est-ce que c'est les pouvoirs publics ? Est-ce que c'est l'opinion publique qui doit se saisir ?
pense que c'est en globalité, là, pour le coup. C'est vraiment et la justice qui doit prendre conscience qu'il y a un grave problème dans le traitement des affaires, particulièrement au tribunal de Bobigny, d'ailleurs, où mon affaire est jugée. C'est aussi tout ce qui est les acceptations des plaintes, ce genre de choses, qui doit être aussi différent, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne portent pas plainte encore aujourd'hui, par honte, par n'importe quoi. Informatiser, par exemple, le système de
traitement des plaintes, par exemple. Ouais.
Ça serait pas mal. Je pense qu'il y a encore plein de choses que j'oublie, mais voilà.
Antoine ?
Oui, pas forcément de questions, mais plus une réaction par rapport à ce documentaire. Enfin, merci d'avoir fait ce documentaire, vraiment, parce que c'est dur à regarder, mais je pense que c'est nécessaire, parce que on prend pas conscience, avant de le regarder, de l'ampleur que ce phénomène peut avoir et de la violence qui peut se matérialiser dans des circonstances pareilles, et la difficulté aussi de tout le processus, que ce soit ce que tu disais, la relation avec la police, la relation avec la justice, qui est quand même extrêmement difficile à ce que tu montres dans le documentaire. Et je pense que c'est un documentaire que tout le monde devrait vraiment regarder.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce que la notion de guet-apens, entre guillemets, donc de préméditation, etc., elle est reconnue facilement par les forces de l'ordre, ou c'est quelque chose qui est difficile justement à traiter pour eux ?
Alors, avant même de reconnaître, alors c'est difficile, mais avant même de reconnaître la notion de guet-apens et de préméditation, parce que le caractère de préméditation, il est facile à reconnaître, en tout cas, on peut le prouver. Ce qu'on montre, nous, c'est que le plus difficile aujourd'hui, et c'est assez étonnant, c'est de reconnaître le caractère homophobe des agressions. C'est-à-dire que c'est la circonstance aggravante, elle existe depuis 2004. Dans la loi. Il y a tout l'arsenal juridique pour les reconnaître. Et en fait, ce qu'on montre, est à la fois dans le documentaire, mais aussi dans les 300 dossiers qu'on a quand même analysés, qu'en fait, quand on cible un gay et qu'on fait plusieurs victimes gays le même soir dans les Tuileries, un lieu de drague le plus connu au monde, on part du principe que ce n'est pas homophobe. Et à quel moment, on dit même pas qu'il faut condamner ces gens-là pour homophobie forcément, après c'est le procès et les preuves, on dit que la question n'est même pas soulevée, ni le temps de l'enquête, ni le temps du procès. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, officiellement, ces 4 dernières années, il y a 11 guet-apens homophobes, 11 condamnations pour guet-apens homophobes, et en termes de statistiques du ministère de l'Intérieur, il n'y en a aucune. Versus les 300 que nous... Et on ne les a pas... c'est pas inventé. Il a fallu simplement fouiller, à contacter les associations LGBT, regarder la presse. Donc, c'est clair que on a un problème de regarder un petit peu ce qui se passe pour après réagir.
Vous avez fait un choix éditorial dans ce documentaire, c'est celui aussi d'essayer de donner la parole à des auteurs de ces violences. Ça n'a pas dû être un choix facile. Comment vous en êtes venu à l'idée de dire on va les contacter, on va essayer de... Comment vous traitez ça dans le documentaire ?
Alors, pareil, on s'est beaucoup interrogé sur la pertinence ou pas de montrer ce discours. Je pense que nous, on avait la volonté de boucler les affaires, c'est-à-dire de faire témoigner les victimes, de faire témoigner les avocats, les institutions, et logiquement, les agresseurs, ou en tout cas un des agresseurs dans les affaires. Nous, on a estimé que c'était nécessaire parce qu'on voulait montrer la mécanique homophobe. Et un des premiers agresseurs dit « bah voilà, je l'ai tapé ». Et on voulait montrer cette banalité. Et aussi interroger, c'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'on a raté pour que des gamins de 15 ans, 16 ans, 18 ans puissent, le soir, l'agresseur raconte en disant « voilà, nous on s'ennuyait, on vendait de la drogue la journée, puis le soir on allait au parc et puis on allait cibler des gays. Qu'est-ce qu'on a raté pour que ce soit un défouloir, ce soit un amusement de frapper des gays le soir ?» Et pour le deuxième, ce qui était intéressant, et ça disait autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés homophobes qui sont balancés comme ça pendant le temps de l'interview. Et on s'est posé une question à la fin, vraiment entre nous, c'est comment est-il possible que dans son affaire, le caractère homophobe n'ait pas été retenu ? Pour comment expliquer que la justice n'ait pas vu l'homophobie qui nous a paru évidente et qui, je pense, pour toutes les personnes qui vont regarder le doc, sera évidente. Et donc, du coup, ça interroge, en fait, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de questions, peut-être qu'on n'a pas voulu regarder et questionner cette homophobie-là, mais c'est pour ça qu'on a jugé pertinent de les interroger.
Il y a 10 ans, était adoptée en France la loi pour le mariage pour tous, à l'issue d'un marathon législatif et d'un mouvement, celui de la manif pour tous, un déferlement de paroles et de postures homophobes dans le débat public. Ça avait beaucoup marqué les esprits. Et dans la foulée, au cours de ces 10 dernières années, on a eu l'émergence du mouvement MeToo, la prise en compte de la question du traitement des femmes, de leurs plaintes lorsqu'elles sont victimes de violences. Est-ce qu'on a raté quelque chose dans le débat public sur la violence de l'homophobie ? Je sais pas. Est-ce qu'un inconscient s'est pas dit, c'est bon, le mariage pour tous a été voté, fin de ce dossier-là, on passe à un autre. Je sais pas. C'est une réflexion que je me fais là.
Alors j'aimerais avoir la réponse. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que la question des violences sexistes et sexuelles et l'homophobie sont, je pense, intimement liées, même si elles sont différentes à bien des égards. Mais du coup, sur la question de l'accueil des victimes, sur la question de la prise en compte et de la prise de conscience de la société, je pense que à la fois ça avance. Le mariage pour tous a été une avancée, mais je pense qu'on s'est aussi réfugié derrière ça, c'est-à-dire qu'on a accepté des choses. Moi, vraiment, à l'issue du documentaire, je me dis vraiment, ce qu'on veut montrer aussi, c'est à quel point on est tolérant face à l'homophobie, à quel point on a une ministre qui parle de ces gens-là dont l'homophobie est clairement perceptible. Et elle reste tout un temps au gouvernement et elle est défendue. On a beaucoup de ministres qui ont défilé lors des manifs pour tous, des manifs pour tous où il y a eu un déferlement de haine et de violence homophobe. Et ils sont là et ils sont mis
dans la tête. Ça a mis fin à leur carrière politique.
Et du coup, ouais. En fait, je pense que s'il y a une vertu peut-être à Asdoc, ou en tout cas celle qu'on aimerait qui existe, c'est de s'interroger à la fois sur notre propre tolérance. Face à cette homophobie, parce que je pense vraiment que les coups, les meurtres, parce qu'on évoque un meurtre, je pense que ça commence aussi par les mots et par les postures. Et homophobe est celle qu'on accepte trop souvent.
La question que tu soulèves est une question très intéressante qui frappe aussi les médias que nous sommes dans, au nom du débat, donner la parole à tout le monde, renvoyer dos à dos, finalement échangeons des arguments entre un homophobe et un homosexuel. Cette idée-là est une question très importante. Kevin, est-ce que toi, il y a un message que tu as envie de faire passer soit au grand public, aux personnes qui nous écoutent sur Internet, soit aux médias, vis-à-vis de cette homophobie.
Là, comme ça, rien ne me vient.
C'est dur, c'est vrai que ça demande beaucoup.
Non, là, comme ça, j'ai pas d'idée. Je pense que tout est dit dans le reportage, de toute façon. Ouais. Et chacun se fait sa propre idée de ce, de ce qu'il faut amener, en fait, à tout ça. Mais... voilà. Je pense qu'il faut tout simplement regarder le reportage pour pouvoir comprendre vraiment de quoi il s'agit et se faire sa propre opinion.
Et regarder ça. Voilà. Où est-ce qu'on le retrouve, du coup, ce reportage, David, sur Mediapart la semaine prochaine, c'est
ça ? Alors oui, il sera disponible.
On a le célèbre ?
Non.
Ah, faut s'abonner.
Je vais faire mon petit Edoui, mais non, il sera disponible le 19 avril sur Mediapart. Et je fais mon Edoui Plenel, mais en gros, c'est vrai que c'est... nous, on est assez fiers de ce travail. C'est la première fois qu'on a un documentaire intégralement produit par Mediapart. Évidemment, c'est du temps, des moyens, et c'est pour ça qu'on a mis en place des dons et qu'on incite les gens à s'abonner. Parce que voilà, on croit à ça et on pense que c'est l'intérêt public.
On ne te fera pas ce procès-là ici, t'inquiète pas, David.
Merci
beaucoup. Bravo, Kevin, pour ton témoignage. Merci, David, et bravo pour ce travail donc à retrouver à partir de la semaine prochaine sur le site de Mediapart. Chers amis, on va marquer une petite pause pour se retrouver dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité politique. Il s'agira de la députée insoumise Clémence Guettet. À tout de suite. We'll be right back.